question, comment défaire le discours sexiste dans les médias? Peut-être une réponse avec la une de Libération hier, les visages de quatre femmes, le titre PPDA, elles accusent. Au total, ce sont 8 femmes qui témoignent en leur nom contre l'ancienne star du JT de TF1. Harcèlement, agression, viol, les faits sont détaillés et les paroles sont éprouvantes. Cette enquête de Libé arrive après plusieurs autres affaires qui impliquent Patrick Poivre-Dravor et que le journaliste a toutes niées. Cette enquête de Libé arrive également après des décennies d'omerta et de discours sexistes dans les médias qui remettent en cause la parole des femmes, et c'est le sujet d'un livre qui paraît aujourd'hui. Anne Diatkine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération et vous avez co-mené cette enquête aux côtés du journaliste média Jérôme Le Fillâtre. Avec vous, avec nous, Rose Lamy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice de ce livre dont je viens de parler et qui vient de tomber de mon bureau, Défaire le discours sexiste dans les médias. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès, ouvrage dans lequel vous revenez notamment sur le traitement médiatique des précédentes affaires PPDA, mais pas seulement. Première question média, Anne Diatkine. On peinait à trouver un Libé hier en kiosque. Moi, je n'ai pas pu. J'ai fait 3 maisons de la presse, je n'ai pas trouvé. Comment ont été reçues cette une et cette enquête?
Alors, j'ai l'impression que ça a été effectivement très bien reçu. Moi, ce qui m'importait, ce qui nous importait, Jérôme Le Fillâtre et moi, c'est que ça soit bien reçu aussi par les principales intéressées. Et on a reçu énormément de mails, de textos, de remerciements. Donc, elles ont été, elles se sont senties écoutées, entendu, et même dans la complexité. En fait, nous, ça nous importait beaucoup de pouvoir recueillir leurs paroles, de ne pas les réduire à l'agression ou aux harcèlements ou aux viols qu'elles avaient subis.
Rose Lamy, vous êtes également à la tête d'un compte Instagram qui recense le sexisme dans les médias. Il s'appelle Préparez-vous pour la bagarre.
Oui.
183 000 followers, c'est bien ça.
C'est ça.
Comment avez-vous réagi à cette une de Libération? D'abord, est-ce que vous l'avez trouvé vous-même, le journal?
Moi, j'ai dû faire 2 maisons de presse pour le trouver et je crois que j'ai pris le dernier exemplaire, donc je pense que c'est un signe aussi. Moi, j'ai été très émue par cette couverture. J'ai pas peur de dire que moi, j'y vois un écho au J'accuse de Zola, puisque ça titre « Elles accusent » et qu'on est peut-être dans un moment où le système judiciaire touche à ses limites et qu'il faut qu'on réfléchisse à une manière de gérer la question différemment. Et c'est là que les médias peuvent peut-être soutenir des citoyennes lanceuses d'alerte et des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Je veux dire pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui dans Culture Média, car c'est en partie un sujet média. Si ces femmes ont pris la parole, c'est notamment à cause d'une déclaration qui a été tenue par l'ex-présentateur du JT, c'était dans l'émission Quotidien le 3 mars dernier. PPDA venait à l'époque de se défendre suite à une plainte pour viol de l'écrivaine Florence Porcel. Souvenir.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que de ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir, les yeux dans les yeux, me dire « mais non, là, c'était pas bien », etc.
Anne Diatkine, vous répondez à ceci, vous écriviez dans Libération hier, 8 femmes ont décidé de prendre le journaliste de 74 ans au mot et de témoigner dans Libé. 7 d'entre elles le font à visage découvert. Comment se sont-elles manifestées à vous?
Alors, dans un premier temps, Jérôme Le Fillâtre et moi, nous avons pu lire l'enquête préliminaire et c'était éprouvant, c'était extrêmement éprouvant parce que on y lisait un mode opératoire récurrent. Enfin, un mode opératoire récurrent de la part de l'agresseur. C'est la totalité des dépositions. Elles ont toutes déposé spontanément, sans se connaître pour la plupart. Elles ont d'abord trouvé l'adresse du major, c'est-à-dire de l'officier chargé de l'enquête, et ce qui n'est pas facile. Et effectivement, beaucoup ont réagi, ont eu envie de rétablir la vérité à partir du moment où PPDA a fait cette déclaration.
Mais donc, est-ce qu'elles sont venues ensuite vers vous, après avoir entendu PPDA dans l'émission Quotidien, ou est-ce que c'est vous qui les avez contactées en disant « tiens, tout cela est anonyme, et si nous mettions notre pierre à l'édifice, si j'ose dire ?»
Alors c'est nous qui les avons contactées dans un premier temps, et ensuite d'autres personnes, d'autres femmes nous ont contactées. Certaines d'ailleurs n'ont pas déposé. Donc quand on a décidé de publier l'enquête, on aurait pu continuer. On pourrait y passer l'année. On n'avait pas fini de recueillir tous les propos quand, quand on a décidé de...
De publier.
De publier, sinon...
Rose Lamy, comment vous avez réagi quand vous avez vu le passage de PPDA dans l'émission Quotidien en mars dernier ?
Alors, ça avait fait grand bruit dans la communauté féministe, et moi j'avais eu un avis un peu différent de la majorité. Donc il y avait d'abord une critique de lui donner un si long temps de parole et pas de le donner aux victimes, et après ça appartient aux victimes de vouloir venir sur un plateau, donc je me disais que c'était pas vraiment pertinent. Moi j'ai été plutôt intéressée, vraiment c'était pour moi une expérience d'avoir le discours d'un accusé qui se défend de violences sexistes et sexuelles à la source, parce qu'en général, et je l'explique dans le livre, c'est souvent leurs amis qui viennent les défendre, qui viennent dire mais non il en est incapable, vous ne pensez pas... Il ne peut pas être coupable, c'est mon ami. On a beaucoup d'exemples. Donc là, c'était vraiment lui qui venait, et donc c'était intéressant à décrypter. Et moi, ce que j'ai noté, c'est, comme d'habitude, le déni. C'est impossible. Voilà, une autorité sur la réalité de ce qui s'est passé. Par autorité, ça n'existe pas, il ne s'est rien passé. Et puis oui, il y avait tout un champ lexical du mensonge. Alors le mot mensonge n'est pas prononcé, parce que après mis tout ça passe quand même mal, mais il y avait tout un champ lexical de synonymes, affabulation, invention.
Puisque vous parlez de mensonge, et c'est notre sujet, et c'est le sujet également de votre livre, je vais citer Stéphanie Cayatte, qui est journaliste de 51 ans, qui témoigne dans Libé d'hier. Elle parle de lui, elle dit « Je ne l'entends pas s'approcher, il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche. Je ne suis pas là depuis 10 minutes. » Autre témoignage, Muriel Réus, 63 ans, ancienne dirigeante adjointe d'une filiale de TF1. Elle dit « PPDA ne parle toujours pas, il se lève et ferme la porte à clé, stupéfaite. Je n'ai pas le temps de réagir qu'il est déjà en face de moi. Il essaye de m'embrasser, il défait sa ceinture et baisse son pantalon. » Je ferme là les guillemets. Anne Diatkine, les témoignages que vous avez recueillis sont forts, très forts, parfois insoutenables. Comment les avez-vous vérifiés avant de les publier ? Est-ce qu'on peut vérifier des choses pareilles ?
Oui, enfin non, on peut pas vérifier vraiment précisément. En revanche, ce qui est frappant, c'est la récurrence. C'est la récurrence, c'est-à-dire que c'est le 22 femmes qui témoignent, donc 8 dans Libération, et qui témoignent d'un même mode opératoire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des agressions par surprise. Donc ça, elles le disent toutes. Ça a lieu brusquement. Elles emploient assez rarement le mot brutal. Elles s'y attendent pas. C'est souvent, elles sont d'abord invitées au JT pour certaines d'entre elles, assez souvent. Ensuite, elles voient en pleine lumière le présentateur journaliste qui ne leur adresse pas la parole. Elles se demandent un petit peu pourquoi elles sont là. Elles, souvent, quand elles sortent un livre, quand elles sont apprenties journalistes, elles sont très très heureuses qu'on s'intéresse à leur travail, ou quand elles sont journalistes tout court d'ailleurs, enfin pas forcément, c'est parce que souvent il y a des très jeunes femmes qui viennent et qui sont assez impressionnées, et elles viennent pour défendre leur travail, elles viennent pour qu'on s'intéresse à leur travail, et elles attendent beaucoup de PPDA, c'est-à-dire qu'elles attendent un intérêt intellectuel.
Et je vais essayer de résumer, cet intérêt intellectuel disparaît et s'évanouit totalement à un moment crucial dont on pourrait penser qu'il est vrai ou faux, sauf que c'est toujours le même mode opératoire et qu'elles ne sont pas concertées et toutes racontent la même histoire. C'est ce qu'on lit et qui est glaçant dans Libération. On va parler de la parole des femmes en général et même la manière dont, sur une affaire pas aussi tragique que celle-ci, les femmes sont représentées, et il y a une énorme différence quand on vous lit Rose Lamy, on s'en rend compte. Culture Média continue, à tout de suite. Elle. Culture Média, préparez-vous pour la bagarre, c'est le surtitre de ce livre, Défaire le discours sexiste dans les médias, livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès, il est signé Rose Lamy, qui fait écho avec la une de Libé hier, Libé introuvable, c'est un signe, il n'y a pas que les journalistes qui achètent une, qui revient notamment sur ces 8 femmes qui témoignent à visage découvert, en fait 7+1, dans cette enquête que vous avez menée, Anne Diatkine, avec Jérôme Le Fillâtre, Rose Lamy. Dans votre livre, vous revenez sur de nombreuses affaires, PPDA évidemment, Darmanin, DSK, Maznef. Vous avez relevé toutes les prises de parole médiatiques, c'est notre sujet ensuite. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le sort, si j'ose dire, qui était fait aux victimes et aux plaignantes? Comment étaient-elles décrites, présentées dans la presse, dans les médias?
Alors, pour ces grandes affaires, qui sont très médiatiques, il y a plusieurs mécanismes qu'on retrouve quasiment dans toutes les affaires. Il y a d'abord le déni de l'affaire. Donc c'est l'accusé en général qui va nier et dire que c'est impossible. C'est un argument d'autorité, genre ça n'arrive pas. Il est très vite défendu par ses amis dans les médias également, dans des tribunes, sur les plateaux de télévision. Et ils vont dire « Non, mais je m'en porte garant, c'est impossible, il n'a pas pu le faire. » Donc c'est ce que j'appelle le boys club. Enfin, c'est une théorie féministe, c'est pas moi qui l'invente, mais en tout cas j'appelle ça le boys club ou la solidarité masculine. Ça s'accompagne d'une remise en cause perpétuelle de la parole des victimes. Alors on va se demander si elles mentent, si elles ont un intérêt à le faire. C'est le fameux mythe du business de la plainte où on pense qu'il y a quelque chose à gagner à accuser publiquement des hommes de violences sexistes et sexuelles. On pense un peu qu'on est dans un épisode d'Esprit criminel, où c'est peut-être l'affaire DSK, enfin de New York Unité Spéciale, où c'est peut-être l'affaire DSK qui a joué, mais en tout cas en France, il n'y a pas d'argent, et on ne peut pas gagner 1 million d'euros en accusant des hommes de violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment un service public qui s'occupe de la condamnation, de l'indemnisation des victimes. Bref, c'est un processus plus compliqué et il n'y a quasiment aucun intérêt à accuser publiquement, à part à perdre son emploi et à se prendre des campagnes de lynchage sur les réseaux sociaux.
La première affaire qui vous interpelle, c'est l'affaire Bertrand Cantat, qui avait tué à coup de poing sa petite amie de l'époque, Marie Trintignant. Comment cette affaire vous a-t-elle marqué ?
Moi, c'est ce que j'explique dans l'introduction. J'en parle tout de suite, puisque moi, j'ai pas de culture théorique féministe. Il y avait pas de livre féministe chez moi et je pensais pas l'être. Puis on était dans une époque où c'était pas vraiment à la mode, où c'était plutôt mal vu de se revendiquer féministe. On commençait plutôt nos phrases par « je suis pas féministe, mais peut-être qu'il y a un petit souci ». Donc moi, c'est ces affaires-là qui m'ont construite. Et le premier bug dans la matrice que j'ai vu et qui m'a fait prendre conscience du système, c'était l'affaire Cantat. Ça m'a touché dans ma chair.
Dès le début du livre, vous citez un journaliste de Rock'n'Folk qui s'appelle Patrick Eudeline, qui écrit au sujet de Cantat après le drame. Eudeline écrit « Je ne connaissais pas Cantat, mais comme tout le monde ou presque, je m'imagine à sa place ce soir-là. Je ressasse toutes les violences, les cris, les scènes, les jalousies, tout ce que j'ai vécu moi aussi et qui aurait pu mal tourner. »
Oui, par exemple, à cette époque-là, sans culture féministe ni politique, j'ai bien compris que moi, je ne m'imaginais pas à la place de Bertrand Cantat, que je m'imaginais à la place de Marie Trintignant ou à la place de ses enfants qui restaient sans mère. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, tout ce que je lis sur le sujet, c'est un certain point de vue masculin qui se projette dans l'acte de violence que moi, je ne ressens pas. Donc j'ai commencé à avoir un décalage avec ce que je ressentais.
Là, on parle de drames terribles, mais il y a aussi parfois des affaires moins graves, mais le biais, le glissement sémantique est le même. Rose Lamy, vous faites le recensement de tout un tas de faits divers dans la presse écrite où la femme n'est jamais nommée, voire tournée en ridicule. Exemple, je vous cite, j'ouvre les guillemets, « À Danjou, il menace d'égorger sa femme parce que la pizza n'est pas cuite. » Ou encore, « À Paris, elle énervait son compagnon, il la tue et la met à la poubelle. » Comment expliquez-vous ce traitement, si tant est qu'on puisse l'expliquer ?
Pour moi, c'est un procédé rhétorique de minimisation. Et je pense que, enfin, j'ai enquêté un peu sur l'histoire du fait divers. Et pour moi, c'est un usage du fait divers qui est historique, parce que à son invention, on a classé les histoires de mœurs, comme on disait, et donc les violences sexistes et sexuelles, dans cette catégorie. Et parce qu'on les met dans ces catégories, qui sont en périphérie des journaux, qui ne sont pas les pages centrales, qui ne sont pas les pages politiques ou d'actualité qu'on va socialement valoriser, parce qu'on les met dans ces catégories, on les dévalorise. Et il y a une culture de la dérision, d'en rire, et c'est pour ça qu'on arrive aussi à des traitements médiatiques, on parle de mort, de femmes mortes, de vie morte, et de violence, et on arrive à le traiter comme ça, en ironisant, en riant du motif qui est une pizza mal cuite, ou il y a aussi les mots croisés qu'elle n'a pas réussi à finir, ou parce qu'elle ronfle. Et donc, collectivement, on voit ces faits divers, et on peut rire. Moi, je sais qu'au départ, au début des réseaux sociaux, je riais, jusqu'à ce que je me dise, tiens, c'est quand même des femmes et des vies.
Anne Gatine, est-ce que vous avez relevé le même glissement sémantique autour de l'affaire PPDA ?
Mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on leur a un petit peu reproché à toutes ces femmes de ne pas s'être manifestées à temps auprès de la DRH, auprès de leur chef. D'abord, elles l'ont fait parfois, mais
Elles l'ont fait, pardonnez-moi, je vous interromps, juste pour dire un passage que j'ai trouvé dans votre papier. Muriel Réous qui raconte également qu'elle a prévenu Patrick Lelay, le PDG de TF1 de l'époque, de l'incident qu'elle avait subi. À quoi il aurait répondu ? Il a osé avec toi, et puis il a dit « je m'en occupe », et l'histoire s'est arrêtée là, et c'est récurrent.
C'est récurrent, enfin, il y a d'autres témoignages où elles disent qu'elles ont alerté, mais surtout ça provoquait des rires, et c'est très déstabilisant, parce que si ça provoque des rires, et ben on se dit « on minimise ». On se dit ben, « de toute manière, je ne vais pas en mourir, il faut que je garde mon emploi, il faut que... ». En réalité, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'elles ont toutes dû quitter... Donc TF1, la quasi-totalité.
Il y a une plaignante qui travaillait dans l'émission littéraire de PPDA, qui est restée 4 ans avec lui, et Hélène Devin qui est restée très longtemps à LCI.
Mmh. Oui, mais LCI, ce n'est pas exactement TF1. C'est-à-dire qu'elle a quand même dû quitter, elle a quand même demandé à quitter son poste. Elle écrivait les journaux de PPDA. Il l'a très mal pris, selon son témoignage, et surtout, elle a été cassée. C'est-à-dire qu'il a expliqué partout qu'elle était nulle, etc. Donc, effectivement, elle a d'abord été placardisée.
J'aimerais qu'on dise un mot du sexisme ordinaire, parce que là, on parle de faits tragiques, de faits très, très graves, mais il y a du sexisme ordinaire dans la presse que vous relevez, Rose Lamy. Par exemple, le fait que quand c'est une femme, c'est une femme. Elle n'a plus de nom. Ça nous fait rire, ça ne devrait pas. Exemple, page 154. NASA, une femme a été nommée à la tête des vols habités. C'est dans le Sud-Ouest. Une femme à la tête de 850 pompiers en Creuse. C'est dans la montagne. Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin. C'est dans Le Monde. Le premier coronavirus a été découvert par une femme. Je lis des titres. Là, c'était CNews. Une femme prend la tête de la Lituanie. C'est dans le Figaro. Encore dans le Figaro, une femme remporte le prix Nobel d'économie. C'est sans fin. On a l'impression de cette recension. Et il faudrait que vous souhaitez évidemment que ça change et qu'on nomme les gens et qu'on nomme les femmes.
Oui, parce que ce qui participe à la déshumanisation des femmes dans les médias, c'est aussi de ne pas leur donner de nom. Alors, le phénomène le plus spectaculaire, c'est le substantif une femme, mais il y a aussi des cas où on les appelle par leur prénom, où on les appelle par des surnoms, comme
bien sûr,
on disait... Ségo, par exemple, pour Ségolène Royal. Ségol, ouais. Et contre Sarko, et lui, c'était son nom de famille, elle, c'était son prénom diminué. Vraiment, enfin, toute une symbolique. Et alors, on rit d'une femme, moi, ça me fait rire, j'avoue, ça fait rire beaucoup de féministes. Elle a même une page Wikipédia où on a toute sa carrière. On s'interroge souvent sur comment elle peut gérer ce planning, parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses à faire à travers le monde. Mais c'est pas si drôle que ça, parce que c'est un terrain de déshumanisation qui prépare... le fait qu'on soit insensibilisé au sort des femmes plus tard dans des affaires de violences sexistes et sexuelles.
Je terminerai sur cette phrase et je pense à tous les journalistes qui nous écoutent et qui parfois ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train d'écrire. Journalistes, hommes et femmes. Merci beaucoup Rose Lamy. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Défaire le discours sexiste dans les médias ». C'est chez J.C. Lattès ou Jean-Claude Lattès, on dit comme on veut, ou chez Lattès. Anne Diatkine, vous êtes journaliste à Libération. Votre enquête, elle est publiée hier, mais on peut la retrouver évidemment sur le site libération.fr. 8 femmes qui accusent PPDA. Merci d'avoir été avec nous en direct avec cette liberté de parole.